Introduction. Catherine de Sienne est assez mal connue en France, en dehors de l'ordre dominicain et des spécialistes de la littérature italienne du Moyen Âge. Lors même qu'on la mentionne, on se fait souvent d'elle une idée assez floue. Dans une série télévisée intitulée Inquisitio, diffusée en 2015, la sainte est présentée comme l'inspiratrice fanatique d'une bande de tueurs prête à diffuser la peste dans le comtat venaissin pour saper le pouvoir de l'antipape Clément VII en terrorisant la population. Maurice Barrès, pour sa part, l'avait décrite dans un livre intitulé « Du sang, de la volupté et de la mort » 1893, sous les traits d'une délicieuse nonne pâmée au bras de ses suivantes, la tête renversée de volupté et les yeux noyés d'extase, ce qui rend davantage compte de la fameuse fresque que lui a consacrée le peintre siennois Sodoma à la fin du XVe siècle que de la réalité de sa vie mystique. Cette incompréhension remonte assez loin dans le temps. Au XVe siècle déjà, Jean Gerson, chancelier de l'Université de Paris, parla d'elle comme d'une exaltée qui avait eu une certaine responsabilité dans l'éclatement du grand schisme en 1378, en incitant la papauté à quitter les bords du Rhône pour ceux du Tibre quelques années plus tôt. Quand ce contentieux médiéval commença à être oublié, la personnalité de Catherine suscita des réserves dans les milieux gallicans en raison de son papisme intransigeant et de son mysticisme qui heurtait la sensibilité classique. En 1691, un ami et collaborateur de Bossuet, l'abbé Claude Fleury, mit en doute, dans un des volumes de son Histoire ecclésiastique, l'authenticité de ses visions qu'il attribuait à des jeûnes trop poussés, ce qui lui valut d'être attaqué par un dominicain italien, le père Ambrogio Tantucci, qui publia une réfutation de ses critiques, accompagné d'un vibrant éloge de la sainte. En fait, il fallut attendre la seconde moitié du XIXe siècle avec l'affirmation de l'ultramontanisme au sein du clergé français et les débats qui opposèrent alors les médecins croyants à certains confrères libres penseurs autour du phénomène de la stigmatisation pour que l'on commençât à s'intéresser à elle, ainsi qu'à d'autres visionnaires médiévales comme Hildegarde de Bingen et Angèle de Foligno. Et c'est seulement à notre époque que les travaux qui lui ont été consacrés par des historiens et des théologiens se sont multipliés, sans parvenir pour autant à la rendre populaire hors de l'Italie. Il y a à cela plusieurs raisons, dont la première est sans doute que Catherine de Sienne n'est pas un personnage d'emblée très attirant. Dans la préface de la première biographie historique de la sainte, parue en français en 1919, Johannes Jorgensen, un écrivain danois converti au catholicisme, écrivait à son sujet. Pour être sincère, je dois avouer que j'éprouvais moins de sympathie pour Catherine de Sienne que pour François d'Assise. Il y a dans la nature énergique de la siennoise un je ne sais quoi d'esprit de domination, un élément de tyrannie qui me déplaisait. De même, Louis Canet, en 1948, ouvre son étude sur l'expérience spirituelle de la sainte par la remarque suivante. Catherine de Sienne n'est point avenante. L'entrain, la fantaisie, la grâce qui donnent tant de charme à sainte Thérèse d'Avila lui ont été refusées. Ce n'est pas que l'esprit lui manque, mais il est aigre. Je souscris d'autant plus volontiers à ces réactions que je les ai moi-même partagées. Bien que le témoignage de ses disciples nous montre à quel point ils furent subjugués par son rayonnement, la façon dont Catherine se met toujours en avant finit par lasser, tandis que son incompréhension face à certaines réalités de son temps et son angélisme dans le domaine politique et religieux, suscite chez le lecteur le mieux disposé de l'étonnement, et parfois de la gêne.